Êtes-vous victime de glossophobie? C'est l'une des peurs les plus fréquentes chez les adultes. Avez-vous deviné de quelle peur il s'agit? C'est celle de parler en public. Peut-être que vous êtes vous-même une victime de la glossophobie. Comment y faire face? On en parle avec Cindy Rivard dans le cadre de notre chronique hebdomadaire sur la communication et son impact sur nos réussites, qu'elles soient professionnelles ou sociales. Bonjour Cindy.
Bonjour Caroline.
Cindy, j'ai lu que parler en public était la peur numéro un des gens devant celle de la peur de la mort. Ça m'étonne un peu. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe?
Bien, j'ai pas d'études précises à citer à ce sujet-là, mais plusieurs articles le mentionnent en effet. Les statistiques varient par contre de 40 à 75. Je dirais que ça dépend sans doute de la définition qu'on donne à une phobie. Je suis bien prête à croire que 75 de la population a peur de parler en public. J'en fais partie, même si je le fais quand même. J'appellerais plutôt ça avoir le tract. La phobie, elle peut devenir vraiment handicapante. La personne peut faire des crises de panique ou encore tout faire pour éviter de se mettre dans la situation de parler en public. Tu sais, l'art de bien s'exprimer, c'est un atout dans toutes les sphères de notre vie. Ceux qui ont une facilité avec l'art oratoire sont avantagés. On peut facilement imaginer que pour ceux qui évitent de parler en public, ça peut nuire à leur carrière ou à l'avancement de leur projet.
Alors toi, Cindy, tu as peur de parler en public et pourtant, tu donnes des formations et des conférences. Alors, comment fais-tu?
Bien, d'abord, il faut savoir que maîtriser sa peur de parler en public, ça s'apprend. C'est sûr que si j'ai une peur panique, je suis mieux d'aller consulter un spécialiste pour creuser plus loin puis trouver les causes de cette peur-là. Si, comme la majorité de la population, j'ai le tract et que je préférerais être à des kilomètres de là plutôt que de m'adresser à un groupe, mais que si je suis obligée de le faire, je vais le faire quand même, eh bien, je vous le garantis, on s'améliore avec le temps. J'en suis la preuve. Même si je continue de stresser, d'avoir peur du jugement, puis d'avoir certains symptômes physiques, je sais que je m'améliore. Du moins, je le sens. Mes symptômes de peur sont différents d'avant, puis je gère mieux mon stress. D'ailleurs, aujourd'hui, je cherche même les occasions de parler en public au lieu d'avoir envie d'être ailleurs. C'est un signe indéniable pour moi que je m'améliore.
Et quels sont les symptômes?
Bien, plusieurs vont sans doute se reconnaître. Même les plus grands acteurs en sont victimes après des années d'expérience. On peut avoir le cœur qui bat plus vite, on a des maux de ventre, des tremblements, on transpire. On peut même avoir mal au cœur ou mal à la tête. Dans mon cas, le symptôme très apparent dont j'ai réussi à me débarrasser, c'est le tremblement dans la voix. Et puis, c'est graduel comme disparition, si je peux dire. Au début, tout le monde entendait ce fameux tremblement de voix-là que j'avais. Puis ensuite, moi, j'en avais conscience. J'avais l'impression que ma voix tremblait encore beaucoup, mais les gens me disaient ne pas s'en rendre compte. Donc, finalement, c'était graduel. Puis aujourd'hui, je dirais qu'il y a, pour ainsi dire, disparu. Mais j'ai encore des symptômes, un peu moins apparents, mais qui doivent être gérés.
Et comment fais-tu pour les gérer?
Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première, qui peut sembler un peu simpliste, mais qui fonctionne vraiment, c'est de se préparer, tout simplement. Oui, ça peut arriver qu'à la dernière minute, on ait à intervenir en public pour une raison ou une autre, mais la majorité du temps, on peut se préparer. Alors, pourquoi s'en passer?
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer comme il faut?
Bien, en plus de savoir de quoi on va parler dans les grandes lignes pour avoir les idées claires, on peut aussi s'entraîner. Puis s'entraîner, ça inclut deux choses. Premièrement, se pratiquer à voix haute. Ces pratiques, ça permet d'affiner sa présentation puis de repérer les points faibles. Ça permet aussi de prendre de l'assurance dans la livraison de son message. Se préparer aussi, ça ne veut pas juste dire de pratiquer son texte, mais aussi d'apprendre à évoluer devant un public. On peut se filmer ou s'enregistrer, au moins pour voir comment on se comporte du côté de notre gestuelle ou de nos tics verbaux. Puis en prendre conscience, bien, c'est le premier pas vers l'amélioration.
Oui, mais la majorité des gens n'aiment pas s'entendre ou se regarder.
C'est tellement vrai, puis c'est aussi mon cas. C'est simple à comprendre. Dans le fond, on est le juge le plus sévère envers soi-même. Mais en fait, comment s'améliorer si on ne constate pas par nous-mêmes nos petits travers? Si on n'est vraiment pas à l'aise avec cette suggestion-là, bien, on peut essayer d'avoir quelqu'un avec nous en qui on a confiance puis qui saura nous indiquer les améliorations possibles.
Mais là, dans les deux cas, là, ça prend une bonne dose d'humilité.
Absolument, tu as bien raison, Caroline. L'autre aspect qui permet d'avoir une performance à la hauteur de nos attentes, c'est de bien connaître son audience. À qui est-ce qu'on parle? Est-ce qu'ils connaissent mon domaine d'activité? Est-ce que les mots ou le vocabulaire que j'utilise est adéquat? Si c'est un public inconnu, une petite recherche sur Internet peut nous informer. Si on a été demandé par quelqu'un pour venir présenter quelque chose, bien, cette personne-là est bien placée pour nous informer.
Est-ce qu'on peut réellement toujours connaître son public?
Je dirais que dans la majorité des cas, oui. Parfois, il faut y mettre un peu du sien pour faire enquête, mais c'est important de savoir à qui on va parler. Il n'y a rien de pire que de préparer une présentation et de se rendre compte une fois sur place que ce n'est pas adéquat pour ceux à qui on s'adresse. Là, on sent le stress monter en flèche. On pense parler à des adultes, mais c'est des ados. On pense parler à des experts, mais c'est des novices. Notre exemple, on pense parler à une personne qui a un pouvoir de décision pour notre projet, mais c'est un intermédiaire. Bref, ça arrive souvent.
Et c'est souvent parce qu'on tient pour acquis qu'on va s'adresser à un public précis.
Oui, c'est en plein ça. Puis, ça prend juste quelques instants pour s'en assurer en plus. Je te donne un exemple qui va sans doute résonner chez plusieurs personnes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à une entrevue pour un emploi en pensant rencontrer une seule personne pour finalement se retrouver face à tout un comité?
Oui, ça arrive.
Bien, c'est une situation courante, puis ça peut déstabiliser une personne qui a de la difficulté à parler devant plusieurs personnes, justement. Bien, il suffit tout simplement de le demander lors de la prise de rendez-vous. En fait, l'idée, c'est d'essayer de ne pas se retrouver déstabilisé ou du moins le moins possible. Savoir en avance qu'on va s'adresser à plusieurs personnes et non pas une seule, ça permet de se préparer mentalement aussi.
Et une fois sur place, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler notre fameux stress, surtout là, si on est déstabilisé?
Bien, on peut arriver un peu en avance pour se faire une idée de la salle. Déjà de voir la grosseur de la salle, de savoir si on a un lutrin ou un micro, si c'est une table ronde, si on doit rester assis ou debout. Tous ces petits détails-là nous permettent de nous mettre dans la situation en avance puis avoir plus d'assurance. Même dans le cas d'un 5 à 7 où on fait souvent des tours de table pour se présenter, bien, arriver en avance puis choisir sa place en fonction de ce moment-là peut aussi nous aider à gérer notre stress. Dans le cas d'une entrevue d'embauche, arriver un peu en avance nous permet de prendre le temps de nous calmer avant l'entrevue. Ensuite, on respire un bon coup. Je vais te dire un secret, Caroline. Quand je suis devant un groupe, j'ai tendance à parler beaucoup trop vite. Je crois pas que ça se remarque, mais moi, je le sens. J'ai l'impression d'être essoufflée. J'en suis consciente. Alors, quand quelqu'un intervient ou pose une question, ben j'en profite pour respirer calmement pendant son intervention, puis je reprends le contrôle sur mon rythme. C'est un peu ça le secret, dans le fond. Prendre conscience de ses petits travers puis trouver des solutions pour y pallier.
Mais j'imagine que la solution qui fonctionne pour toi, Cindy, ne fonctionnera pas nécessairement pour quelqu'un d'autre.
Non, en effet. Chacun est le seul responsable de mettre le doigt sur le rituel qui va lui permettre de baisser son stress, je dirais. Que ce soit méditer, respirer calmement, écouter de la musique ou faire des exercices, essayez différentes choses. On peut aussi se référer à ce qui nous fait déjà du bien dans la vie de tous les jours. Ça peut certainement aider. Et puis, si on est déstabilisé par une situation, ben, il n'y a rien de mieux que de faire preuve d'authenticité. Quand on sait que 75 % des gens n'aiment pas parler en public, s'il y a une situation déstabilisante qui passe, ben, les trois quarts de notre auditoire vont être empathiques si ce n'est pas tout l'auditoire, parce que personne ne voudrait vivre la même situation. On garde notre calme, puis on peut même faire preuve d'un peu d'humour. Dire quelque chose comme « Eh bien, je ne m'attendais pas à ça », on a aussi le droit de le faire.
Et c'est vrai que sachant que la majorité des gens n'aiment pas parler en public, il me semble que ça vient relativiser les choses. Et puis, tout le monde a commencé là, quelque part un jour.
Oui, absolument. Et pour ceux qui commencent puis qui ont vraiment le trac, il y a un truc qui va vous aider, mais au début seulement. Je dis au début seulement parce que ce truc-là va aussi nous empêcher d'avoir des informations importantes de notre public. Je m'explique. Si on a vraiment le trac et puis qu'on n'est pas loin de la peur panique, on peut regarder notre auditoire juste au-dessus de leur tête. Ça donne l'impression de faire face au public, mais ça nous enlève un certain stress parce qu'on ne voit pas les réactions des gens, justement.
Mais les réactions des gens peuvent nous donner de belles informations parfois.
Oui, puis c'est pourquoi que je dis d'appliquer ce truc-là seulement si vraiment on est en situation de stress intense. Avec le temps, il faut apprendre à baisser les yeux et puis commencer à établir un contact visuel avec les gens. L'auditoire nous donne de bonnes informations sur sa compréhension ou son appréciation de notre message. Le problème, c'est lorsqu'on regarde seulement ceux qui ont l'air fermés à notre discours. Là, le stress monte encore plus parce qu'on pense que personne n'aime ce qu'on dit. Il faut donc promener son regard, puis pour nous aider à rester enthousiastes, on va repérer ceux qui démontrent de l'intérêt pour ce qu'on dit. les regarder souvent puis voir leur approbation nous aide beaucoup à garder confiance.
On voit que c'est vraiment là, tout un apprentissage que de parler en public.
Oui, mais ça s'apprend. Si on évite toujours les occasions de parler en public, on ne peut pas s'améliorer. Et puis, ça ne veut pas dire de parler devant des centaines de personnes, là. Juste d'oser faire une présentation devant quelques collègues de travail ou se présenter avec plus d'assurance lors du prochain tour de table qu'on va avoir à faire, c'est autant d'occasions de mettre de nouveaux trucs en pratique pour gagner en confiance.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et de quoi va-t-on parler dans la prochaine chronique?
Bien, maintenant qu'on est capable de gérer son stress pour parler en public, on va parler de comment faire un pitch de vente ou, si tu préfères, comment présenter une idée de façon gagnante.
C'est super. Alors, on se retrouve lundi prochain à 11h30 pour une autre chronique. On a de la suite dans les idées avec Cindy Rivard, stratège, conseillère et formatrice chez Oyer Communication. Merci Cindy, à lundi prochain.
Merci Caroline.